Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le réveil culturel. Tous les mercredis, c'est l'actualité du cinéma et aujourd'hui mon invité est le documentariste Daniel Kupferstein. Son dernier film Pas en mon nom sort dans quelques salles d'art et d'essai et pose cette question délicate. Peut-on être français, juif et s'opposer à la politique d'Israël sans être considéré comme un traître par ses coreligionnaires? Le film donc donne la parole à des personnalités connues ou moins connues qui racontent leurs expériences individuelles au rythme des conflits au Proche-Orient. Et puis en deuxième partie, Michel Simon du magazine Positif viendra nous parler des autres films qu'il faut voir cette semaine. D'abord le City Hall de Frédéric Weisman, le Adieu les cons d'Albert Dupontel et nous dira aussi deux mots sur son cinéaste fétiche, Kontchalovski. Voilà, c'est le réveil culturel. On est mercredi, c'est cinéma.
Le réveil culturel. Mercredi, cinéma.
Souvent, lorsque les conflits violents reprennent au Proche-Orient, les Juifs de France sont appelés à soutenir inconditionnellement l'État d'Israël. Pourtant, un certain nombre d'entre eux, comme moi, refusent cette assignation identitaire. C'est pourquoi je suis allé à leur rencontre.
De mon judaïsme, qu'est-ce qui reste? J'ai rien à rejeter. Il me reste des souvenirs. Il me reste les persécutions, la cuisine et la musique. Mais pas d'attachement à un pays.
Quand on est juif et qu'on arrive en Israël, on est tout de suite d'un côté, on est tout de suite dans un camp, on ne voit qu'une seule facette des choses. Et c'est très 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 difficile de passer de l'autre côté. Il faut rencontrer les gens au quotidien pour comprendre ce que ça leur fait à leur vie, de rien pouvoir faire, de rien avoir le droit de faire, de demander l'autorisation pour tout.
Israël doit son existence à une décision de l'ONU. L'ONU a fait une autre résolution disant qu'il faut qu'il quitte complètement les territoires occupés. Depuis 1967, Israël remet en cause la structure à laquelle il doit sa légitimité. C'est ça qui est absolument indéfendable.
Mon soutien de la cause palestinienne a fait de moi un traître. Et pour moi, c'est très difficile à vivre. Moi, j'ai consacré ma vie à écrire des livres, une trentaine de livres sur l'histoire des Juifs. Et aujourd'hui, dans la rue, les gens m'insultent. Les Juifs m'insultent.
Voilà, Esther Benbassar, qu'on a reconnue, c'est un des personnages qui sont dans votre film, Daniel Kupferstein. Bonjour d'abord.
Bonjour.
Alors, votre film, Pas en mon nom, déjà le titre nous donne une indication sur ce que vous voulez démontrer à travers ces rencontres avec des Juifs français, qui soient d'ailleurs séfarades ou ashkénazes. Chacun vient raconter son histoire et chacun vient vous parler de son expérience en France à chaque fois que le conflit israélo-arabe, pour ne pas dire israélo-palestinien, revient au devant de l'actualité.
Tout à fait. Oui, j'ai essayé d'aller les voir un petit peu par ma propre expérience, c'est-à-dire que...
Pour être sûr que vous n'êtes pas seul.
Oui, voilà, pour ne pas être seul, pour me sentir complètement seul. Et puis, surtout parce que j'ai l'impression que on glisse un petit peu en France, en tous les cas, mais probablement un peu partout dans le monde, on glisse sur ce qu'on a appelé une essentialisation des questions ou une espèce de déterminisme, comme quoi en fonction de notre appartenance ou notre histoire ou d'où on vient, on devrait penser de telle ou telle manière, voilà. Et donc de ce point de vue-là, je me suis dit
ça marche dans tous les sens, hein, c'est-à-dire d'origine maghrébine ou arabe, on se sent concerné par le conflit israélo-palestinien en prenant vraiment le parti des Palestiniens. Mmh. Et pour les Français juifs, vous dites dans votre film, Daniel Kupferstein, qu'on n'a pas le droit de critiquer l'État d'Israël, de moins en moins le droit de critiquer l'État d'Israël sans être accusé de traîtrise.
Oui, absolument. C'est-à-dire que, en fait, il y a eu... à travers les institutions juives en France, une radicalisation vers la droite, voire l'extrême droite, si on peut appeler ça comme ça. En tous les cas, où la parole, où la diversité de la parole par rapport à des questions sur Israël-Palestine, cette diversité, elle a été, oubliée au profit d'une défense absolue quoi que fasse Israël,
quel que soit le gouvernement,
il faut les défendre, etc. Et en fait, c'était le point de départ de ce film, c'est-à-dire que là, en 2009, il y a eu des bombardements sur Gaza. Et j'ai vu un appel du CRIF qui demandait à soutenir Israël, c'est-à-dire en plein bombardement des avions israéliens contre des personnes à Gaza, et au nom de la défense d'Israël, et quelque part au nom de la défense de tous les Juifs. Et c'est de ce point de vue-là que ça a commencé à me titiller sérieusement. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que cette prise de position que je ne trouvais insupportable, parce que je trouve que c'est insupportable de bombarder n'importe quel peuple, surtout un peuple qui peut pas trop sortir de son territoire, puisque Gaza s'est enfermé, mais... Ensuite, c'était de dire prendre une position comme n'importe quel individu, mais on m'a dit « Oui, mais toi, Daniel, t'es un juif pas pareil. Comment pas pareil ?» Comme si tous les juifs devaient penser soutenir automatiquement Israël et ne pas avoir sa propre idée, ses propres conceptions, sa propre conception de la vie, tout simplement. Et ça recouvre la question du... Je crois qu'il y a un... À travers pas mal de gens, en France en tous les cas, il y a un glissement entre juifs et israéliens, c'est-à-dire comme si c'était exactement la même chose. C'est-à-dire que tout juif, pour des gens comme le CRIF, doit défendre Israël, et puis du coup, pour plein de gens autour, tout acte israélien, les juifs sont concernés et l'applaudissent et le soutiennent. Et c'est ça que je veux essayer, à travers ce film, d'interroger les gens pour essayer de comprendre que c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que le droit d'avoir son point de vue, il est universel. Enfin, voilà, chacun, d'où on vient, on a droit d'avoir son point de vue.
Et vous avez privilégié donc des gens qui, comme vous, Daniel Kupferstein, ont une analyse politique du conflit entre Israël et Palestine qui dépasse leur appartenance, leur assignation. D'ailleurs, vous le dites souvent dans le film, puisqu'on vous voit apparaître dans le film.
Oui.
Le film, ce documentaire, c'est aussi vos dialogues avec ces personnalités que vous êtes allé chercher.
Oui,
pour vous sentir moins seul.
Oui, probablement. Mais je pense que depuis, je me suis aperçu qu'on était très nombreux. Peut-être pas majoritaire, mais en tous les cas, on était très nombreux à le penser, parce que j'ai reçu, évidemment, d'un côté, des gens, on pense que je suis un traître, mais il y a plein de gens qui m'ont dit, lors de débats, parce que le film a déjà été vu dans quelques associations, etc., il y a plein de gens qui m'ont dit, mais c'est exactement ce que je pense depuis tout le temps, etc. C'est-à-dire que cette idée pas en mon nom, finalement, qu'Israël doit pas parler au nom de tous les juifs, etc., finalement, il y a plein de juifs qui se sentent exactement dans cette même position. Donc, je suis pas seul. Et puis, les gens que j'ai vus, ils ont conforté ce point de vue. Mais je voudrais dire que le film est construit en trois parties. C'est-à-dire une première partie qui d'où on parle, d'où on vient, et donc c'est là où on voit les différences d'origine, Ashkenaz, Séfarade, Égyptien,
Turc,
on vient de différents endroits
et avec différentes cultures.
Et avec différentes cultures, et des fois il y a des problèmes entre les différentes cultures, n'est-ce pas ? Et une deuxième partie qui est le lien ou pas avec l'État d'Israël. Pour savoir un petit peu, parce que une partie a été en Israël, certains ont vécu comme Karen Akoka une dizaine d'années, d'autres ont vécu complètement dans ce pays.
Et vous-même d'ailleurs,
Daniel, moi j'ai été qu'une seule fois, j'ai été une seule fois pendant 2 mois, et de cette expérience, j'en ai tiré une chose, c'est que j'y remettrai les pieds que quand il y aura 2 États ou 1 État suivant un État démocratique où tout le monde pourra s'y installer, en tous les cas dans une paix. J'ai promis ça, et c'est il y a très longtemps, et malheureusement j'y suis pas retourné.
Et puis enfin la troisième partie de votre film.
Et la troisième partie, donc ça c'est la deuxième, parce que ce qui est intéressant aussi dans cette deuxième partie, c'est petit à petit la prise de conscience, c'est-à-dire que petit à petit les gens ils disent non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on dit non. Et la troisième partie, c'est une fois qu'on a dit non, qu'est-ce qu'on en fait vis-à-vis des représentants officiels de la communauté juive qui sont à fond derrière Israël, quoi que Israël fasse, et puis de l'autre côté, de la part de quelques on va appeler ça des pro-palestiniens, etc., qui confondent eux aussi de l'autre côté juifs et israéliens, et qui, en gros, comme dit Maurice Rachfus, là, qui est regretté, qui était dans un meeting de soutien à la Palestine, et puis à la fin, il y a un mec qui vient lui dire « Oui, mais quand même, vu ton origine, tu es quand même responsable de ce qui se passe. » Comme si Maurice Rachfus était responsable de quoi que ce soit par rapport à la dérive militaire et réactionnaire et coloniale de l'État israélien, quoi.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Vous avez fait ce casting, hein, parce que vous interrogez Bernard Bloch, on retrouve Ronny Broman, d'autres personnes qu'on connaît pas, hein, comme Emeline Fago. Vous avez fait un casting en disant je vais donner la parole aussi bien aux intellectuels qu'à ceux qui ne le sont pas pour voir comment eux y vivent ce conflit et cette contradiction, c'est-à-dire être pour la paix au Proche-Orient ou du moins pour une solution juste dans ce conflit israélo-palestinien, mais tout en assumant le fait qu'ils aient cette culture juive et surtout qui sont tout d'abord français.
En fait, je voulais avoir une diversité à la fois d'origine, donc c'est gagné, puisque quand on voit les 8 personnages, ils ont toutes des origines différentes.
Oui, ça vient de Pologne, on doit parler des origines, hein. Oui. La Pologne, l'Europe, l'Allemagne, l'Égypte, l'Alsace, l'Algérie, le Maroc.
Ouais. Donc il y a un petit peu de tout. Ensuite, je voulais une diversité d'âge.
C'est vrai.
Voilà. Et du coup une diversité aussi de sexe, puisqu'il y a autant d'hommes que de femmes. Voilà, j'avais envie de faire cette diversité dès le départ. Maintenant, après le nombre, c'est-à-dire j'ai filmé 13 personnes en tout, donc il y a des personnes qui sont pas là. Et après c'est l'histoire du montage qui a éliminé quelques personnes sur la route. On aurait pu s'arrêter à 3-4 personnes. Voilà, mais ça se tenait plutôt bien avec ces 8 personnages, plus moi, le 9e, on va dire.
Parce que vous êtes présent.
Oui, je suis présent.
Qui vous filme quand vous êtes avec ces personnages? Est-ce que vous avez une équipe? Parce qu'on a l'impression que ce documentaire, vous l'avez fait avec très peu de moyens, comme d'habitude, Daniel Kupfer-Schallen.
Oui, tout à fait. Oui. Alors celui-là, il a été fait avec vraiment peu de financement, puisqu'il n'y a pas grande production qui ont voulu le produire, en disant ce film ne passera jamais sur une chaîne de télévision. Donc voilà, ça va être compliqué, etc. Donc j'en ai eu marre d'attendre et je me suis dit, je vais le faire quand même parce que j'y crois. Et alors j'ai fait un financement participatif. Donc à la fin du film, il y a les 300 personnes qui ont donné de l'argent pour contribuer à ce film. J'ai eu une aide de la SCAM aussi sur ce film. Donc voilà. Et j'ai réussi à boucler en fait ce film avec très peu de moyens. Donc comment ça s'est passé au niveau du tournage? Eh ben il y avait un chef opérateur, Christophe. Enfin il y en a eu, ça, il y a eu un autre à un moment. Mais en fait, on avait une caméra, la mienne, qu'on mettait sur pied d'un côté, et lui, il filmait de l'autre côté. Et voilà, et donc c'est comme ça, on avait donc deux caméras, et lui filmait essentiellement avec sa caméra, mais de temps en temps, il allait voir l'autre, parce que, évidemment, comme les entretiens sont assez longs, du coup, des fois, il y avait plus de batterie, la carte était pleine, voilà, donc il fallait jongler de l'un à l'autre, etc. Donc c'était un peu folklore, voilà. Mais on s'en est sorti, quoi.
Pas en mon nom de Daniel Kupfer-Schallen sort donc aujourd'hui dans quelques salles d'art et d'essai. Hein. Par exemple, à Paris, c'est au Saint-André-des-Arts, tous les jours à 13h. Mais on peut voir aussi ce documentaire à Saint-Malo, à Annecy, à Dijon, à Fontenay-sous-Bois. Et votre idée, Daniel Kupfer-Schallen, c'est d'accompagner ce film, c'est-à-dire qu'il y ait un débat après chaque projection.
Oui, parce que j'ai l'impression que ce film suscite forcément des débats. J'en ai déjà fait quelques-uns dans des avant-premières avec des associations, et tout de suite il y a un débat tout de suite qui s'engage parce que il y a des représentations, il y a des idées qui ont été faites, il y a des gens qui sont pas d'accord, qui trouvent que je vais trop loin, d'autres qui, au contraire, je vais pas assez loin en fonction de leur engagement, etc. Et donc je trouve ça intéressant d'accompagner ce film pour que les gens comprennent un petit peu, bah, comme votre interview là, qu'on comprenne un petit peu mieux ma démarche et puis surtout toutes les questions qui peuvent en découler. Moi, par exemple, je trouve ça intéressant que des associations le reprennent, même si je suis pas là, mais qu'ils le reprennent avec un débat, parce que on a encore des représentations qui sont encore figées. Et je trouve ça bien de sortir du cadre.
Merci beaucoup d'être venu ce matin nous en parler, Daniel Kupferstein. Je rappelle le titre de votre documentaire, Pas en mon nom. On va écouter Lynn Monti. Je ne sais pas si vous connaissez cette chanteuse. Eh ben voilà, vous allez découvrir une des grandes chanteuses de cette tradition judéo-arabe du Maghreb. Lynn Monti, Mon pays et ma guitare sur France Culture.
France Culture, le réveil culturel, Tofik Hakem.
Et parmi les autres sorties au cinéma aujourd'hui, deux films que Michel Simon, le grand patron de la revue Positif, nous recommande vivement. Il s'agit de City Hall de Frédéric Weisman et Adieu les cons d'Albert Dupontel. Deux genres très différents. Bonjour Michel Simon.
Bonjour.
Ici, on commençait par City Hall de Frédéric Weisman, Michel Simon.
Oui, alors avant de commencer par City Hall, qui est la couverture de Positif, je voudrais signaler que un très grand film sort également à Paris le 21, c'est Michel-Ange de Andrei Konchalovsky. Nous l'avions choisi comme couverture en juin, le film devait sortir à l'époque, à cause du coronavirus, il a été déporté, mais je voudrais évidemment le recommander. Tous les articles ont paru au mois de juin. Par contre, City Hall, c'est un film absolument passionnant, totalement d'actualité, car d'abord, on sait que Frédéric Weisman est un des plus grands documentaristes au monde. C'est un Américain de 90 ans et qui fait des films mosaïques consacrés à des institutions, à des bibliothèques, à des sanatoriums, à des stations de ski. Ce sont des films de 4h30, c'est la durée de celui-ci. Et cette fois-ci, il a choisi la mairie de Boston. Mais pour la première fois dans ces films, il y a un personnage central. D'habitude, c'est vraiment une myriade de personnages. Le personnage central, c'est le maire de Boston, Martin Walsh, qui est l'anti-Trump. Et on peut voir ce film vraiment comme une réponse à Trump, puisqu'il est l'opposé. Il s'occupe des déshérités, Il fait baisser le chômage, il met toutes les communautés en harmonie les unes avec les autres. C'est un personnage charismatique, un peu à la Frank Capra. Donc je recommande vivement ce film. Et puis un autre film, alors très différent, qui est le film d'Albert Dupontel, qui lui est dans la fantaisie, dans l'imaginaire. Et Dupontel, pour son, je crois que c'est son 7e film, poursuit sa course en solitaire, sous l'égide de Jean-Pierre Jeunet, d'Alain René. C'est un domaine très peu fréquenté par le cinéma français, qui est le domaine de la fantaisie.
Et ça raconte quoi, Adieu les cons ?
Ben, c'est très difficile de le résumer. C'est une histoire d'amour, d'abord, dans un contexte de fantaisie, d'imaginaire. Voilà, je ne veux pas le déflorer vraiment. Mais je voudrais tout de même signaler un dossier de 25 pages consacré aux pandémies, aux contagions, au coronavirus, mais aussi, bien sûr, à la peste, au choléra, à tous ces films qui ont occupé l'histoire du cinéma. Et c'est un dossier qui, au fond, réfléchit sur ce que représentent ces pandémies, qui sont à la fois une réflexion aussi sur l'incompétence des dirigeants, les manipulations hasardeuses des savants et des militaires, l'inconscience des terroristes, etc.
Cinéma Virus, c'est le titre du dossier de Positif ce mois-ci. Michel Simon, merci beaucoup d'avoir participé au Réveil Culturel ce matin. Je rappelle que vos deux coups de cœur sont d'abord le film documentaire de Frédéric Weizmann, City Hall, et le film français, le dernier film français d'Albert Dupontel, Adieu les cons. Merci beaucoup Michel Simon.
Et Michel-Ange.
De Konchalovsky.
Voilà.
Merci beaucoup, Michel Simon. Et puis, je rappelle, bien sûr, le film de Daniel Kupferstein, qui était notre invité ce matin, son documentaire « Pas en mon nom », qui sort. Tous ces films, bien sûr, sortent aujourd'hui. Bonne matinée sur France Culture. On se retrouve demain.
Le Réveil Culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Le Réveil Culturel a été préparé avec Karine Amar, réalisé par Vincent Abouchard, avec ce matin à la prise de son Élise Leu.